corazón lo vas a matar.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous accueillons Bernadette Berger, qui va nous parler de son dernier livre, Pour une goutte d'éternité, aux éditions Lucien Souni. On la retrouve dans quelques secondes.
Conmigo vas a acabar.
Ave María, Lola.
On va retrouver tout de suite Bernadette Berger. Bernadette, bonjour.
Bonjour monsieur l'ingénieux, bonjour à tous.
Alors bienvenue sur Radio Craponne. Donc on va parler de votre dernier roman dans quelques instants, Pour une goutte d'éternité. Mais juste avant, on va parler un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a amené, je dirais, à l'écriture?
C'est une vieille histoire, l'écriture et moi. J'écris depuis l'âge de 15 ans. Et au tout début, j'écrivais des petites histoires et pour moi, pour faire vivre un peu l'imaginaire que j'avais dans la tête. Et puis ensuite, j'ai franchi le pas, j'ai fait éditer, j'ai publié des premiers livres en auto-édition. Et puis j'ai vu qu'ils rencontraient pas mal de succès. Et puis j'ai travaillé davantage mon écriture jusqu'à être marquée par une maison d'édition, donc les éditions Lucien Souni, qui m'ont fait confiance. Et pour une goutte d'éternité, le deuxième livre que je publie chez eux.
Alors vous avez publié combien de livres en auto-édition avant ?
En auto-édition, j'ai publié 3 romans, Le temps ne fait rien à l'affaire, qui est une enquête policière, qui est un peu une enquête, qui est un livre-jeu. En fait, le lecteur peut essayer de démêler les fils de l'intrigue tout seul, et puis je donne la solution à la fin. Ensuite, j'ai écrit un roman, un polar, que j'appelle un polar rural, qui se passe dans un petit village du plateau du Mézin. Ça s'appelle Marceau. On voit évoluer toute la vie d'un personnage un peu pittoresque et il y a une intrigue policière aussi en fond de trame. Et puis j'ai publié aussi un roman historique qui se passe au Puy-en-Velay au XVIe siècle, Caterina de Podio, qui est la vie d'une jeune fille qui est soignante à l'Hôtel Dieu. Et puis ensuite, chez Lucien Souni, le premier roman qu'ils m'ont pris, c'est Le choix d'Amélie, qui est l'histoire d'une béate. Les béates sont des personnages bien connus dans notre Velay, en Haute-Loire. Et c'est la vie d'une béate qui doit faire un choix, un moment, entre ce qu'elle veut vraiment pour sa vie et puis le devoir qu'elle se sent obligée de remplir suite à un drame familial. Voilà.
Oui, juste pour dire, les maisons de béates, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont restaurées en plus.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai trouvé matière pour mon roman, pour faire un décor. Parce que quand j'écris, j'ai toujours besoin de m'inspirer de lieux, d'aller sur place, de faire des photos, pour donner du corps, de la chair à mon histoire. J'ai été vraiment gâtée avec les maisons de béates qui ont été restaurées un peu partout dans le département.
Oui. Alors on va parler du dernier, là, Pour une goutte d'éternité. Alors ça, c'est totalement différent, puisque on va parler... Alors, vous situez déjà votre intrigue dans un site très connu, les grottes de Couteau, qui sont réputées, puisque même Stéphane Bern l'avait inscrit dans le cadre de l'opération Loto du patrimoine.
Oui, c'est ça. Il l'a repéré parmi 3 autres sites qu'il a retenus en Haute-Loire. Donc il a donné une aide financière pour la restauration de ces grottes et maintenant c'est un lieu vraiment très agréable à visiter, qui est bien dégagé. Les plafonds des salles ont été consolidés parce que le gel à certains endroits avait fissuré les plafonds et certains menaçaient de s'écrouler. Donc c'est un endroit tout à fait sécurisé, tout à fait dégagé. C'est un lieu de promenade très agréable. Et puis c'est un lieu mystérieux aussi qui dégage une atmosphère parce que c'est un lieu qui a été habité pendant depuis la nuit des temps en fait. Et on trouve encore des traces, des passages des temps anciens. Par exemple, des rites druidiques ont été ont été tenus dans ces grottes. Enfin, on voit, puis ensuite, les grottes ont été, comment dire, christianisées, puisqu'il y a une chapelle, il y a une salle qui servait de chapelle, que l'on peut voir encore. Enfin, il y a des tas de choses. Il y a des inscriptions rupestres, il y a aussi, malheureusement, le gel l'a fait tomber, mais il n'y a pas très longtemps, il y avait encore un oculus par lequel le soleil du solstice d'hiver passait et venait frapper un symbole géométrique au fond d'une grotte. Et donc, on pense aussi que ce symbole est d'origine druidique et qui servait peut-être de passage de l'enfance à l'âge adulte, enfin... Plusieurs hypothèses ont été émises et je me suis basée sur les travaux d'un de mes compatriotes, Jean-Paul Béal, qui a fait des études sur le village de Couteau, qui est aussi un village un peu énigmatique, et notamment sur les grottes de Couteau dans son bouquin qui recense tous les souterrains et les grottes de Haute-Loire. C'est un travail très, très bien fait, très exhaustif, très détaillé, vraiment... Donc, je me suis appuyée sur son travail. Ça s'appelle « Le monde souterrain de Haute-Loire » aux éditions du Roure, de Jean-Paul Béal.
On en avait parlé, nous, je crois, sur Radio Crapaud. Alors,
ah oui.
Donc, ça va bien aller pour situer, en fait, votre intrigue. Parce que, alors bon, je pense que c'est sorti de votre imagination un peu, là, ça. Parce que, donc, c'est un jeune berger hein, qui va faire, justement, une découverte fabuleuse. Donc, on va le voir, dans sa vie, il va être complètement changé, puisque c'est ce que peut-être certains rêvent. Hein. Il a trouvé un manuscrit annoté par un célèbre alchimiste et une fiole d'élixir de santé éternelle. Alors, voilà. ça fait rêver quand même, hein, parce qu'on sait qu'on n'est pas éternel, justement. Alors, comment vous est venue cette idée ?
Eh bien, cette idée m'est venue parce que j'ai trouvé une citation de Albert Boudon-Lazerme, le célèbre historien local, qui disait « Plus qu'aucun autre coin de terre, le Velay a su conserver de vieux usages d'autrefois qui étonnent souvent ceux qui en sont témoins. » Et c'est vrai que chez nous, dans le Velay, dans la Haute-Loire en général, dans tous les villages, il y a une légende, dans toutes les forêts, il y a des pierres qui portent la trace du sabot du diable, il y a des fontaines miraculeuses qui guérissent sous les yeux, ou les membres, ou des inflammations, ou les membres distordus, enfin, il y a des tas de légendes et des tas de croyances populaires chez nous. D'ailleurs, Patrice Ray en a fait un musée monastier, le musée des croyances populaires. Donc, je me suis dit, nous sommes sur une terre privilégiée pour raconter des histoires un peu qui sortent de l'ordinaire, des histoires extraordinaires dans le sens étymologique du terme. Et donc, ces grottes de Couteau, j'habite à côté, donc ces grottes de Couteau, je les connais depuis longtemps, et je me suis dit, et si... Parce que quand j'écris une histoire, ça commence toujours comme ça. Et si, dans ces grottes, on trouvait un mystérieux coffret ? Et si, qu'est-ce qui se passerait ? Voilà. Et donc, j'ai tiré c'est comme une pelote, j'ai tiré le fil, et l'histoire m'est venue, les scènes les unes après les autres, l'histoire m'est venue, c'est comme une pelote que l'on tire, ou bien aussi, c'est comme... Un sculpteur qui dégage d'un bloc de marbre, qui dégage un personnage. Le personnage apparaît petit à petit au fur et à mesure que le travail avance. Et ben pour moi, les histoires, elles sont comme ça. Je trouve un lieu qui m'inspire et puis je gratte jusqu'à ce que l'histoire apparaisse.
Oui, alors on verra, enfin le lecteur verra dans le livre que finalement, ça va pas être un long fleuve tranquille hein, pour ce jeune berger parce que c'est vrai que quand on peut rêver d'être immortel, ça peut susciter quelques jalousies.
Oui. Oui, donc oui, parce que bien sûr, il trouve ce coffret, lui, il ne sait pas trop quoi en faire au début, mais il y a des méchants, pour simplifier, qui cherchent ce coffret aussi, et donc voilà, ça va être un combat de longue haleine entre le clan des méchants et puis ce jeune homme qui, lui, veut faire les choses dans le respect de la nature, parce que l'alchimie, c'est une leçon d'humilité, parce qu'il faudra de longues années pour qu'il mette au point le processus Et il faut recommencer 10 fois, 20 fois, 100 fois, et chaque fois on n'a qu'une petite fenêtre très limitée dans le temps pour refaire élaborer le processus qui amène au grand œuvre. Et en même temps, c'est une leçon de respect de la nature. Et je trouve que dans les temps que l'on vit, c'était intéressant aussi de mettre un focus sur sur l'alchimie, qui est d'abord un respect de la nature, un respect de ce que la nature nous donne, et la volonté de tout faire pour conserver cette nature intacte et ne pas la souiller, ne pas la gâcher. C'est toute la démarche de ce jeune homme de faire les choses avec le respect de la nature.
Ouais, on est bien dans le cadre actuel, hein, où on sait qu'il y a une grosse bataille pour la nature, hein, pour le monde, où parfois on oublie un petit peu les projets, qu'ils soient industriels ou autres, ont tendance à la sacrifier un petit peu, cette nature. Donc le livre va vraiment dans le bon sens. Et puis, vous avez réussi quand même à mettre une petite histoire d'amour dedans.
Voilà, oui, parce que la chimie aussi, c'est ça. Pour que le processus alchimique ait lieu, il faut un élément masculin et un élément féminin. C'est à la base de, c'est ce qu'on trouve dans toutes les publications alchimiques, et pas seulement dans les publications. Au puits, par exemple, vous avez la fontaine du Plot, qu'on appelait avant la fontaine de la Bidoire, et sur cette fontaine, il y a deux aigles et deux dauphins. Et donc les uns représentent l'élément masculin stabilisant et l'autre l'élément féminin plus volatile. Mais il faut la conjugaison des deux pour que le processus alchimique puisse se développer et aboutir. Donc voilà, il fallait aussi mettre l'accent là-dessus. Et puis les histoires d'amour sont à la base de la vie, quoi. Donc c'était essentiel aussi qu'il fallait que ce personnage y trouve son pendant féminin. Et comme Nicolas Flamel avait Permel pour faire quand il pratiquait l'alchimie.
Vous avez beaucoup travaillé là, vous avez beaucoup étudié sur l'alchimie pour en parler.
Eh bien oui, enfin c'est ce que je dis à la fin du livre, c'est que je ne suis pas une experte en alchimie et que je ne donne pas du tout de recettes et je ne suis vraiment pas du tout, j'ai pas pratiqué moi-même bien sûr. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée, et puis je me suis rendu compte aussi que chaque maître alchimiste avait un peu sa façon de faire. Il avait ses propres recettes, parce que les documents donnent lieu à de multiples interprétations, suivant que l'on traduit les mots de l'ancien français, ou des mots égyptien, ou des mots grecs, enfin, qu'on les traduit d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est ce que j'explique à un moment dans le roman, c'est que il y a un des alchimistes qui fait une erreur d'interprétation, donc il n'arrive pas à aboutir à la fin du processus. Tout est question d'interprétation, et chaque maître alchimiste procède à sa manière, donc il n'y a pas de recette toute faite, et puis c'est tellement entouré de mystères, c'est fait exprès en fait, je pense, pour que ça ne soit pas donné au commun des mortels de faire ça dans sa petite cuisine, quoi.
Ouais, alors ça rappelle un petit peu, alors pour ceux qui, et je pense que tout le monde un jour a lu Astérix, hein, donc avec le druide qui a son élixir pour donner de la force à ses deux amis, hein. Ben là c'est pareil, il n'y a que lui qui avait la recette en fait.
Voilà, c'est ça.
Bon là c'est un petit peu plus sérieux, je dirais. Donc pour une goutte d'éternité, c'est Bernadette Berger qui est avec nous. Alors ouais, c'est un roman qui est bien situé, parce que Couteau c'est un peu mystérieux aussi. Donc cette histoire est très mystérieuse, hein. L'alchimie pour avoir une vie éternelle, ça fait quand même rêver.
Oui, ça fait rêver, mais voilà aussi, je me suis posé la question sur la fin de vie, donc parce que le patron des méchants, le monsieur qui a les moyens de mener l'enquête et qui veut à tout prix mettre la main sur ce coffret, est en fin de vie. Malheureusement, il est atteint de la maladie de Charcot, il est âgé, et il veut à tout prix retrouver, bien sûr, sa jeunesse. Mais je me suis demandé si, quand on est comme ça en fin de vie, est-ce qu'on a vraiment envie de revivre, de revenir à 20 ans et de revivre, de retrouver sa jeunesse et de profiter encore de la vie, ou bien est-ce qu'on a quand même envie de passer à autre chose? Et c'est là que je laisse la porte ouverte sur cette question, et chacun peut répondre à sa façon, selon ses convictions religieuses ou selon son désir. Voilà, c'est une question que je laisse ouverte. Est-ce que vraiment on a envie de tout revivre, ou est-ce que quand on arrive à la fin de sa vie, qu'on est très âgé, que l'on souffre, est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de passer à autre chose?
Oui, ben c'est sûr, hein, être immortel, bon, on ne sait pas, personne ne le saura jamais. Enfin, on ne sait pas, mais je ne crois pas. Donc, non, mais c'est pas, vous pouvez tout imaginer dans les années qui viennent.
Mais si c'était possible, oui. Est-ce qu'on aurait vraiment la volonté de le faire?
Oui, puis est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas sûr. Comme ce que vous disiez, on a une autre vie, on a une vie d'une certaine manière. Ben, on sait que tout s'arrête, hein. On sait qu'on est un jour et qu'on va mourir un autre, donc, et dans la nature c'est pareil, hein, on sait qu'il y a des choses qui naissent et des choses qui meurent, donc on fait partie de la nature en fait.
Voilà, c'est ça, on fait partie du processus de la nature, et puis on apprécie d'autant plus notre vie qu'on sait qu'elle va s'arrêter. Si on savait qu'elle était éternelle, on n'apprécierait pas les choses à la même valeur.
Ouais, c'est pour ça que, enfin moi, je suis peut-être un peu comme ça, mais on dit qu'il faut toujours savoir d'où on vient. Et puis je crois qu'il faut profiter des instants parce que, bon, il y a des petits soucis, comme dans toutes les vies. Mais quand on voit tout ce qui se passe actuellement, ce qui se passe dans certains pays où il y a des guerres et tout, je crois qu'il faut être heureux d'être sur Terre, puis vraiment de profiter des bons moments qu'on passe. Hein, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas toujours ressasser. Voilà, celui-là, il a plus que moi. Il faut toujours regarder en dessous, moi, je dis. Hein. Il y en a beaucoup plus malheureux que plus heureux, finalement.
Et oui, c'est vrai.
Donc, ce livre va faire rêver un petit peu, je pense, les gens. Hein, pour une goutte d'éternité, il y en a peut-être, ça va leur poser des questions. Tiens, si je devenais éternel, hein, pourquoi pas?
Oui, mais c'est le but, c'est de, voilà, la période qu'on a traversée, là, un petit peu, qui était triste. Et, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, vu que la situation économique n'est pas brillante. C'est bon, voilà, c'est une histoire qui, j'espère, donnera... permettra aux gens de s'évader un petit peu de leur quotidien, de vivre pendant quelques heures ailleurs. Voilà, une histoire haletante, je pense, j'ai voulu écrire comme un polar. C'est une histoire où les événements se précipitent. C'est pour que les gens puissent s'évader un petit peu de leur quotidien.
Ben voilà, il faudra lire donc ce livre, Bernadette Berger, pour une goutte d'éternité, pour savoir comment ça se termine aux éditions Lucien Souni. Alors, est-ce que vous êtes déjà en train d'en écrire un autre ou vous l'avez déjà écrit?
Non, là, je suis dans les travaux de préparation, donc les travaux de recherche. J'ai pas encore vraiment commencé. J'ai écrit un petit synopsis, mais je n'ai pas vraiment commencé l'écriture réelle.
Le thème, vous avez le thème quand même?
Eh bien, je pense que c'est une histoire qui se passe aujourd'hui. Voilà, parce que donc pour une goutte d'éternité, se passe dans les années 30, hein, en 1933. Et le livre actuel se passera aujourd'hui.
D'accord.
Ce sera plus dans notre époque.
21e siècle.
Voilà.
Bah oui, bah il faut parler un petit peu de ce siècle, hein, qui aura été... qui est en train de connaître quelque chose qu'on n'avait jamais connu, nous, peut-être nos générations, hein, puisque s'il y a eu d'autres virus comme ça qui ont été terribles, mais nous, notre génération, on n'a jamais connu ça, on n'a pas connu la guerre, donc ça remet un peu d'ordre dans les idées, là.
Voilà, oui, c'est vrai qu'on vit une époque où il y a tant à dire, il y a tant de choses à mettre en lumière, donc il y a du travail.
Ça sera pour l'année prochaine?
Je ne sais pas, non, parce que moi j'écris très lentement, alors c'est très... non, je ne sais pas du tout, je ne peux pas donner de date.
Eh bien écoutez, merci d'avoir été avec nous, Bernadette.
Merci à vous.
Je rappelle, ça nous fait toujours plaisir de parler des... les auteurs de la Haute-Loire. Bernadette Berger, Pour une goutte d'éternité, c'est un roman aux éditions Lucien Tounis, puis comme on a l'habitude de le dire, on le trouve dans toutes les bonnes librairies.
Voilà, surtout dans toutes les bonnes librairies, où on peut le commander directement aussi sur le site des éditions Lucien Tounis.
Très bien.
Sur Internet, pas de problème.
Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous, puis on attend avec impatience votre prochain livre.
Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ingénieux, voilà. Et bonne journée à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, donc, Bernadette Berger, qui était avec nous aujourd'hui pour Une goutte d'éternité. C'est le roman dont elle nous a parlé et que vous pouvez trouver, vous l'avez entendu, dans toutes les bonnes librairies ou commander directement chez Lucien Souni. C'était notre invité du jeudi. Vous retrouvez cette émission, bien sûr, le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Notre invité du jeudi sur Radio Craponne, c'est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi ou une excellente journée.
Mira, mira.